Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et on continue la série de prédications thématiques sur « En Christ » et humblement réformé baptiste. Et le premier verset qui, en fait, ouvre la thématique se trouve en Hébreux 11, le verset 3, qu'on va lire ensemble. Donc, ce premier passage introduit comme ça la thématique, Hébreux 11, 3. Après quoi, on lira encore d'autres versets qui viennent enrichir le premier. Donc, Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et puis maintenant, des textes complémentaires. Le premier qu'on va lire dans la première épître selon Jean, au chapitre 1, et ce sera les versets 1 à 3. Donc, première épître de Jean. Ah, pardon. Oui, Évangile selon Jean, c'est dans l'autre sens du coup. Alors, Évangile selon Jean, chapitre 1, merci pour la correction, les versets 1 à 3. Donc, Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et là, on revient tout en arrière pour lire une série de passages dans le livre de la Genèse. Donc, on va commencer par le chapitre 1 de la Genèse. Donc là, on est vraiment tout au début de nos Bibles. Et on va lire les versets 1 à 3. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Et puis on reste dans le chapitre 1, mais on avance un bout jusqu'au verset 26. On va lire les versets 26 à 28. Verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Et on avance de nouveau un petit bout au chapitre 2 et on va lire les versets 22 à 24. Donc, chapitre 2, versets 22 à 24. Verset 22. « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. »
En ces temps de brouillard épais, nous comprenons aisément que s'il fait nuit et qu'il y a un brouillard épais, c'est très difficile de se retrouver, qu'on peut même se perdre facilement. Sans connaissance du lieu aussi, c'est quasiment impossible. Eh bien, de la même façon, dans la parole de Dieu, sans la lumière et la connaissance du lieu du Saint-Esprit, nous serions perdus, nous ne saurions pas où aller. Et nous comptons sur l'œuvre du Saint-Esprit encore ce matin pour que lui agisse dans nos cœurs.
Ah, j'ai oublié de mettre en on.
Vous m'entendez mieux là, ça va ? Désolé. Je vais quand même répéter le brouillard. Donc en ce temps de brouillard, c'est facile de comprendre
qu'il est difficile de se mouvoir dans la nuit, le brouillard, sans connaître les lieux. Et la même chose dans la parole de Dieu. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit qui connaît les lieux et qui est la lumière, nous ne comprendrons pas sa parole. Nous avons besoin de lui aujourd'hui. Comme Marc l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans la série de prédications qui a été initiée en fait dans les 20 ans de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. C'est une série thématique qui a pour but de nous faire comprendre que notre identité est en Christ, que nous voulons vivre proche de sa parole, ayant des convictions réformées baptistes. Or, le titre de la série est donc, comme entendu avant, « En Christ et humblement réformés baptistes ». Alors, nous sommes conscients que nous ne sommes pas les seuls à croire et vivre ce que nous enseignons hein, dans toute l'histoire de l'Église et partout sur la terre. Nous ne sommes pas les seuls. Et nous avons d'ailleurs bien des points communs avec les églises de la région, hein, les églises évangéliques et réformées du canton de Neuchâtel, comme la foi en Jésus-Christ, Dieu homme, révélé par la parole et par qui seul nous pouvons être sauvés. D'ailleurs, celui qui se repent de ses péchés, qui croit en Jésus-Christ, seul médiateur, et lui soumet sa vie, ayant pour autorité suprême la parole de Dieu, est un chrétien, enfin, un réformé baptiste. Un chrétien. Okay. Et sa ligne théologique, qu'il la connaisse ou non, va le guider dans sa manière de vivre sa vie, par contre, dans ce pèlerinage sur terre. Alors, nous avons déjà vu, premièrement, que le fait qu'en Christ, nous croyons que la Bible est une autorité suffisante, eh bien, cela nous enlève de nous égarer et de chercher de nouvelles révélations confirmées par des miracles. On n'a plus besoin de nouvelles révélations confirmées par des miracles. La Bible est complète et elle est notre autorité. C'est ce que nous avions vu en Christ, basé sur la parole. Deuxièmement, nous avons pu saisir qu'en Christ, notre salut était totalement basé sur l'œuvre accomplie par Christ qui nous donne une nouvelle nature. Nous n'avons pas à prouver quelque chose ou à craindre de ne pas être à la hauteur, tout en utilisant à fond les capacités que Dieu nous a données en Christ, notre Sauveur et Seigneur souverain. Et la dernière fois, dimanche passé, nous avons pu comprendre en Christ que nous sommes appelés à chercher à vivre uniquement ce que Dieu enseigne pour le culte. Et cela nous préserve de nous détourner de notre adoration du seul vrai Dieu, d'adorer d'autres dieux. Et cela nous soulage aussi de devoir chercher des innovations non demandées par Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre fondement partagé par d'autres chrétiens qui a un impact sur plusieurs sujets. Par exemple, cela a un impact sur notre place de créature face au Créateur, à qui nous devons rendre des comptes. Cela a un impact sur notre attitude face à la vie humaine confiée par le Créateur. Cela a un impact sur notre compréhension de l'identité humaine. Cela a un impact sur notre façon de vivre la sexualité. Cela a un impact sur notre foi en Jésus-Christ historique. Celui qui place sa confiance dans la parole de Dieu qui est en Christ sera d'accord, et ça, tout chrétien est d'accord, que Dieu est créateur. Ça, tout chrétien est d'accord. Par contre, l'explication de la façon dont Dieu a créé le monde est le sujet en fait d'une grande controverse particulièrement depuis le 19e siècle, qui a vu se développer l'hypothèse de l'évolution. Alors jusque-là, les chrétiens attachés à la Bible avaient habituellement cette croyance que Dieu avait créé le monde en 6 jours, que nous continuons d'ailleurs de vivre dans notre cycle hebdomadaire de travail avec 6 jours et 1 jour. Et ce matin, nous allons nous appuyer sur la seule parole infaillible de celui qui était présent lors de la création des cieux et de la terre pour parler de ce sujet tout particulièrement. On a lu ensemble avant le texte de Hébreux 11:3 qui est le texte fondamental pour ce sujet parce qu'il nous indique que c'est par la foi que nous comprenons. Et c'est le cas pour toutes les visions du monde puisque personne d'autre que Dieu n'était présent à ce moment-là. Même pour l'évolution, c'est une croyance qui cherche à appliquer les faits dans son hypothèse. Voici ce que dit Hébreux 11:3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est invisible. Alors, comme notre identité en tant que chrétien est en Christ, nous allons à nouveau chercher des indices auprès de notre Seigneur et Sauveur pour ce sujet du jour, dont le titre est « En Christ, notre Créateur ». Et le premier point nous permettra de comprendre que Jésus est Créateur. Ce sera notre premier point. Deuxièmement, nous parlerons de la création en 6 jours. Troisièmement, nous verrons que Jésus souligne la création de l'homme et la femme. Et en dernier lieu, nous verrons que Jésus parle de l'institution du mariage dès la création. Alors commençons par le premier point, Jésus le Créateur. Jean 1, de 1 à 3, qu'on a entendu tout à l'heure, voilà pourquoi je ne voulais pas qu'on lise dans 1 Jean. Jean 1, de 1 à 3, nous l'avons entendu. « Tout a été fait par la parole. Dieu dit, et cela s'accomplit. » Et c'est un fondement, cette notion. C'est un fondement non seulement pour la création, mais aussi pour notre salut. Dieu dit, et cela est vrai, et cela s'accomplit. Et la parole qui a tout fait, dont il est question dans Jean 1, 1 à 3, cette parole a été faite chair. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Jésus est le Créateur. Cela est explicitement dit dans Jean 1, 14. Hein. La parole qui a tout fait, dont il est question dans Jean 1, 1 à 3, a été faite chair. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Jésus est le Créateur. Cela est explicitement dit dans Jean 1, 14 qui dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus est Créateur. Et Paul le souligne encore dans Colossiens 1, 16, 17, quand il dit « Car en lui, en Jésus, il parle de Jésus ici, en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Cela nous indique que Jésus est Créateur. Il est Créateur. D'ailleurs, ses actions lors de son passage sur la terre indiquent sa puissance de création. C'est en son propre nom qu'il guérit les gens quand il est présent. En son propre nom. Et par exemple, pour un homme qui n'avait jamais vu, il était né aveugle, donc il n'avait certainement pas tous les éléments pour que la vue fonctionne, Jésus le guérit et il voit. Jésus dit, et cela s'accomplit. Cela signifie que si Jésus est Créateur, il peut aussi faire de nouvelles créatures. Si Jésus est Créateur, il peut aussi faire de nouvelles créatures. Et il est dit dans 1 Corinthiens 5, 17 que nous aimons, que nous apprécions, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors si ce matin tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est d'être en Christ? Et si dans la suite de la prédication, tu te rends compte que tu es pécheur, que tu mérites le jugement de Dieu, eh bien ne pars pas d'ici sans t'approcher du seul qui peut te gracier. Du seul qui a pris sur lui le péché de ceux qui croient en lui et donc qui vivent pour lui. Jésus est le Créateur. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et s'il dit que nos péchés sont pardonnés lorsque nous confessons nos péchés, c'est fait. Il fait ce qu'il dit et ce qu'il dit s'accomplit. Jésus est le Créateur avec le Père et l'Esprit. Et d'ailleurs, on trouve la Trinité dès le premier verset de la Bible. C'est un peu particulier parce qu'il faut connaître la langue originale, mais dans ce premier verset, nous voyons le sujet qui est pluriel, hein, Elohim, et le verbe ensuite créa, Dieu, pluriel, créa, singulier. Dieu crée le monde, comme la Bible l'enseigne. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons parler maintenant, dans ce deuxième point, de la création en 6 jours. Alors, le texte de Genèse 1 est clair. Hein, si vous prenez Genèse 1, c'est très facile à trouver Genèse 1, si jamais. Hein, c'est tout au début. Bon, il y a les pages de titre, c'est vrai, il faut un peu passer tout ça, mais tout au début de la Bible, vous avez Genèse 1. Et si vous lisez le premier chapitre, il y a quelque chose qui revient régulièrement, c'est qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Donc c'est assez clair. Et Dieu prend d'ailleurs cette mesure des six jours pour donner le seul cycle de temps qui n'est pas donné par notre planète. Dieu prendra d'ailleurs cette mesure de six jours pour nous donner le seul cycle de temps qui n'est pas donné par notre planète Terre. Vous savez, le jour est donné par la rotation de la Terre sur elle-même. Un soir, un matin, on a le jour. Les mois sont donnés par la rotation de la Lune autour de la Terre. Et les années sont données par la rotation de la Terre autour du Soleil. Ok ? Tous ces éléments, on peut les voir. Pour la semaine, eh bien, c'est Dieu qui l'a mise en place et il l'a fait à la création. Et il l'explique clairement en Exode 20, les versets 8 à 11, que nous connaissons, puisque nous avons déjà lu. Vous pouvez regarder avec moi hein, dans Exode 20. Alors, 20, 8 à 11, que plusieurs connaissent sûrement. Par cœur, hein, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. » Et voilà ce qu'il dit pourquoi. « Car en six jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Voilà pourquoi la semaine a 7 jours. Et pas 7 000 ans d'ailleurs, hein. 7 jours. Et vous savez, quand Dieu a créé, il a créé avec une apparence d'âge lors de la création. Il n'a pas créé Adam bébé, il a créé adulte. Et non seulement Adam a été créé adulte, mais la terre en fait a été créée de manière avec une apparence d'âge. Des étoiles avec déjà le faisceau lumineux, enfin toutes ces choses-là qu'on peut dire, ouais, mais l'âge... Ben oui, Dieu a créé tout cela d'une manière qui soit déjà vivable. Alors, je ne vais pas maintenant prendre un temps pour développer tous ces éléments scientifiques très intéressants pour vous prouver, en fait, que ça tient tout à fait la route de le voir de cette manière-là. Mais cette démonstration, c'est plutôt une conférence et pas une prédication. Donc, voilà, on pourra encore en parler, mais juste pour vous dire que c'est tout à fait cohérent. J'aimerais maintenant simplement réfléchir aux conséquences de croire aux six jours de création et non pas dans des milliers, des millions, des milliards d'années de l'hypothèse de l'évolution. Quelques conséquences, tout simplement. La première, si nous croyons aux six jours, nous avons une lecture sans a priori du texte de la Genèse qui laisse naturellement entendre que ce sont des jours et pas de longues périodes. Si quelqu'un lit la Genèse sans aucun a priori, c'est six jours. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Un matin, un soir, enfin un soir, un matin, un jour, c'est clair. Nous lisons donc la Genèse très tranquillement et sans suspicion. Et nous ne demandons pas à quel moment est-ce que ça devient historique. Là, c'est allégorique, puis tout à coup c'est historique, Abraham, c'est allégorique, c'est historique. Enfin, non, c'est historique dès le début, comme Jésus aussi le considérait d'ailleurs. Nous lisons la Genèse très tranquillement, sans suspicion, nous demandant à quel moment cela devient historique. Cela l'est dès le début, comme c'était aussi le cas pour Jésus. Une autre conséquence, si nous croyons au séjour, c'est la parole de Dieu infaillible qui nous donne la mesure du temps, et non la science humaine faillible, qui a déjà d'ailleurs changé l'échelle de temps historique de nombreuses fois. Une autre conséquence, si nous croyons aux six jours, la mort est entrée dans le monde après la chute et pas avant. Comme Romains 5, 12 le dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ce qui nous permet de comprendre que Dieu dit que la création était très bonne en Genèse 1, 31. Est-ce qu'il aurait pu dire cela si la mort était déjà présente? Si la conséquence du péché était déjà présente? Eh bien, nous croyons que non. Cela permet aussi de comprendre la gravité du péché, en fait. La gravité du péché qui fait entrer la mort dans le monde. Et non seulement nous comprenons la gravité du péché ainsi, mais nous comprenons également la grandeur du salut de Jésus-Christ qui est venu porter le péché, vaincre la mort et donner la rédemption même à toute la création. Ça nous permet de comprendre la gravité du péché qui fait entrer la mort dans le monde et la grandeur du salut en Jésus-Christ qui est venu porter le péché et vaincre la mort. Une autre conséquence, si nous croyons au six jours, le premier homme est clairement identifiable. Tous sont descendants de Adam, de qui d'ailleurs est sortie Ève, qui ensuite, avec Adam, sont les parents de toute l'humanité. Ce qui permet de comprendre pourquoi nous avons tous reçu la nature pécheresse héritée et qui se manifeste dans notre vie très très tôt. Nous croyons aussi au six jours, une autre conséquence encore, comme Adam est le premier être humain historique, les autres personnages bibliques qui sont ses descendants le sont aussi. Donc toutes les généalogies ne sont pas des allégories, c'est des réalités. Et comme Adam est historique, nous n'avons aucun problème à croire que Jésus est aussi un personnage historique, car il est mis en parallèle avec Adam. Et on met en parallèle des éléments qui sont correspondants. On n'a pas une allégorie avec une réalité. Donc comme Adam est historique, nous n'avons aucun problème à croire que Jésus aussi est un personnage historique précis, car il est mis en parallèle avec Adam. Il y a plusieurs textes dans Romains 5, dans 1 Corinthiens 15. Je vous en cite un dans 1 Corinthiens 15, verset 21. « Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Une correspondance. Et c'est en Jésus-Christ que nous trouvons notre identité. Et cela est uniquement possible parce qu'il a la même nature humaine que nous. Ce n'est pas juste une figure, Jésus-Christ, c'est une personne humaine, comme Adam. Or, croire à des milliers, des millions, voire des milliards d'années pour ces jours de création pose de grands problèmes pour la compréhension et l'application du salut en Jésus-Christ, homme descendant d'Adam. Et là, on pourrait faire toutes sortes d'illustrations, je ne vais pas le faire maintenant. Mais qu'est-ce que ça implique? C'est que l'historicité d'Adam est clairement identifiable s'il n'y a pas 10 millions d'années de jours de création. Cela nous indique que Dieu est ancré dans l'histoire humaine de façon concrète, personnelle, précise. Et cela nous permet de comprendre qu'il agit aussi pour nous de façon concrète, personnelle, dans notre histoire, et pas juste de manière allégorique. Vous savez, Jésus n'avait aucun problème avec l'historicité d'Adam, qui est facilement compréhensible lorsque nous croyons en ces six jours de la création. Luc 3 nous donne la généalogie de Jésus jusqu'à Adam. Mais Jésus n'était pas seulement à l'aise avec l'historicité d'Adam, il le cite aussi avec Ève. Il cite Adam et Ève. Et c'est ce que nous voyons dans ce deuxième point. Dieu créa l'homme et la femme. Il a regardé le texte dans Matthieu. Si on prend dans Matthieu, donc Matthieu, vous savez que c'est un évangile. Avec les enfants, on a vu ça. Enfin, on a parlé de Marc, mais là, on est dans Matthieu. Donc Matthieu est un évangile qui parle de la vie de Jésus-Christ, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a vécu. Matthieu 19 nous permet de voir ce que Jésus dit et pense de Adam et Ève. Il dit ceci, donc c'est dans un cadre qu'on verra tout à l'heure. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» C'est clair pour Jésus. Et d'ailleurs, les termes originaux qu'on a ici pour « homme » et « femme » dans ce texte, de même que dans Marc d'ailleurs, sont clairement un être humain mâle et un être humain femelle. C'est très clair, ce n'est pas des termes génériques. Donc les termes originaux pour « homme » et « femme » dans Matthieu 19,4 ou Marc 10,6, si vous les regardez, dans ce texte sont clairement un être humain mâle et un être humain femelle. Il n'y a pas d'ambiguïté de genre. Il y a des hommes et des femmes dans leur entièreté et rien d'autre. Nous ne voyons nulle part dans la création de Dieu, non touchée par le péché, la notion de déconstruction, on pourrait séparer le rôle, le corps, la sexualité, les capacités, enfin, etc. On voit ça nulle part. Et de les mélanger ou créer des êtres qui sont simplement seulement des rôles ou seulement des façons de vivre la sexualité ou seulement des capacités, non. « ce sont des hommes et des femmes entiers, rôle, corps, sexualité, capacité, qui forment le tout avec l'œuvre de Dieu, leur identité. Le péché a amené à la déconstruction et à la confusion, ce qui a produit ce que certains appellent l'imaginaire collectif, qui est ressenti, et l'identité limitée à une seule partie d'un homme ou d'une femme, comme le rôle, le corps, la manière de vivre la sexualité, la capacité ou autre. Jésus a dit que Dieu a fait l'homme et la femme, tout simplement. L'homme et la femme, d'ailleurs, sont les seuls êtres à avoir été créés à l'image de Dieu. Ça, on l'a lu tout à l'heure dans Genèse, je vais vous le relire. Hein. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. Ça, c'est le texte de la parole de Dieu. Et l'homme étant créé à l'image de Dieu, sa vie est sacrée. Et personne d'autre que Dieu ne peut donner et ôter la vie. L'homme étant créé à l'image de Dieu, sa vie est sacrée. Personne d'autre que Dieu ne peut donner et ôter la vie. L'avortement, l'euthanasie, le suicide et toute forme d'ôter la vie sans un jugement de Dieu est un meurtre qui place le meurtrier sous le juste jugement de Dieu. Et ce n'est que par l'œuvre expiatoire, mais il y a l'œuvre expiatoire donc qui expie, qui paye à la place pour le jugement. Hein, ce n'est que par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ que le salut est possible et qui sera saisi par la repentance et la foi. La Genèse, dans Genèse 2, 7, 16 à 18, 21 à 23, vous pouvez relire tout le chapitre 2, montre aussi que l'homme a été créé avant la femme. L'homme a été créé avant la femme. Que Adam a reçu la responsabilité de prendre soin de la création et que Ève ensuite a été créée comme aide et vis-à-vis. Ça, c'est Genèse 2. La Genèse montre aussi que l'homme a été créé avant la femme, que Adam a reçu la responsabilité de prendre soin de la création et que Ève a ensuite été créée comme aide et vis-à-vis. Or, les deux mots aide et vis-à-vis sont importants. Le premier, aide, dans le sens noble du terme, sans être entaché par le péché, hein, parce que là, il y a déjà des soucis de la compréhension, mais dans le terme noble, veut dire un rôle différent, aide. Et deuxièmement, vis-à-vis, veut dire de même valeur, de même rang, autant précieux. Aide, vis-à-vis. C'est les deux termes qui sont utilisés dans la Genèse. Et Jésus a aussi uniquement d'ailleurs appelé des hommes comme apôtres, leur donnant la responsabilité de l'Église, les femmes n'étant pas mises de côté ni dévalorisées, mais ayant un rôle différent. Voilà pourquoi, avec d'autres enseignements du Nouveau Testament, comme par exemple, nous voyons que c'est uniquement des hommes qui ont été établis anciens, qu'à chaque fois que le terme ancien est utilisé, il est au masculin, nous croyons que la direction qui contient aussi la protection, le soin, le service de l'Église est confiée uniquement à des hommes. Et ça, ça vient de la création. Vous savez, le texte souvent utilisé pour dire que dans le Nouveau Testament, les rôles ne sont plus en lien avec le fait d'être un homme ou une femme, vous savez quel est le texte qu'on utilise la plupart du temps ? C'est Galates 3:28. Galates 3:28 qui dit « Il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car... vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous croyons à ce passage, hein ? Mais j'aimerais le lire dans son contexte. Son contexte qui nous permettra de comprendre qu'on ne parle pas du rôle, mais qu'on parle de la justification ici. Reprenons le contexte. Allez dans vos Bibles, Galates 3. Et nous lirons à partir du verset 24. Vous pouvez lire bien sûr de façon plus extensive toute l'épître aux Galates, mais on va... ici, reprendre à partir du verset 24, où l'apôtre Paul parle de la loi et de la foi. On a eu toute une série d'études bibliques sur le sujet, donc vous pouvez aussi y revenir si vous avez besoin. Donc, verset 24, « Ainsi la loi a été un précepteur, non pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Voilà l'élément clé ici. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est intéressant, il dit tous fils de Dieu, après il dit plus homme ni femme, etc. Bon, ça c'est encore une autre discussion. Mais c'est pour montrer cette notion, c'est là le point. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes les descendants, la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors nous ne pensons pas être plus malins que la parole de Dieu ou que Jésus. Nous n'allons donc pas inventer des choses qui seraient en accord avec notre société complètement saturée par des pensées non bibliques et qui s'en éloignent actuellement toujours plus dans notre contexte. Donc nous n'allons pas chercher à être plus malins que la parole de Dieu, simplement la suivre. Ça ressemble au principe régulateur qu'on a déjà vu un peu la semaine passée. Donc les hommes doivent prendre leurs responsabilités en dirigeant de manière sacrificielle et aimante. Et non en dominant. Ça, c'est la chute. Vous pouvez lire Genèse 3. Et les femmes doivent prendre leurs responsabilités en tant qu'aide et vis-à-vis, et non en portant les désirs vers le rôle de l'homme. Ça, c'est aussi la chute dans Genèse 3. Vous savez, il n'y a que les femmes qui peuvent porter un enfant dans leur sein. Et il n'y a qu'un homme qui peut donner la semence de la vie. Il y a complémentarité et pas interchangeabilité. Cela, c'est impossible de changer dans la procréation, quoi qu'on essaye de faire dans le séquençage actuel, mais c'est aussi le plan de Dieu pour l'autorité et la responsabilité révélée dans la parole de Dieu. Donc la compréhension de la création de l'homme et de la femme avec une identité claire et complémentaire nous donne plusieurs éléments de joie. La première, c'est la joie de nous accepter tel que nous sommes, parce que c'est ainsi que Dieu nous a voulu. Il n'y a pas besoin d'imaginer être quelqu'un d'autre. Nous pouvons être heureux d'être la personne que nous sommes. Deuxièmement, la joie de vivre en harmonie entre les hommes et les femmes, libérés de la tyrannie et de la recherche de prendre la place ou à dominer que la chute a amené dans le monde, dans la relation entre l'homme et la femme. La joie de vivre en harmonie dans la complémentarité. Ça, c'est ce qu'on ressort en croyant en cela. Et troisièmement, la joie d'encourager chacun à prendre ses responsabilités et à vivre sous la mission de Dieu. Un petit jeu de mots avec soumission là, dans cette expression. Hein, c'est être sous la mission de Dieu dans le cadre donné de Dieu. Ça, c'est la soumission biblique. Être sous la mission de Dieu dans le cadre donné par Dieu. Alors Jésus a parlé d'une claire différence entre l'homme et la femme, qui d'ailleurs naissent d'une union entre un homme et une femme, hein, et jamais autrement. Même si on nous fait croire en séquençant chaque étape qu'on pourrait le faire sans un homme et une femme. Ce n'est pas vrai. C'est un fantasme, une imagination, une pure invention. Il faut le matériel, alors j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est ce qu'on utilise, il faut le matériel de l'homme et de la femme pour avoir un enfant, même si vous utilisez toujours de technologie. Et cette conception se vit en devenant une seule chair, et là aussi, Jésus le Créateur en parle. Ça, c'est notre troisième point, car Dieu institue le mariage dès la création. Ce n'est pas une invention humaine, le mariage. Ce n'est pas une invention humaine. Si on revient dans Matthieu 19, on reprend le verset 4 hein, qui nous rapporte les paroles de Jésus qui est en réponse à une question en lien avec le mariage, hein, ici. Et il dit ceci, on l'a entendu tout à l'heure, il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. OK ? Et ça, Jésus prend la citation directe de Genèse 2:24. Hein, Genèse 2:24, eh bien, on l'a entendu tout à l'heure, hein, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et Jésus, il ne s'arrête pas à cette citation, il continue en disant que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc Jésus souligne de manière encore plus claire que quitter, s'attacher et devenir une seule chair, c'est une union divine. Ça, c'est Jésus qui le souligne, hein, dans Matthieu 19, vous pouvez le relire. Jésus souligne de manière encore plus claire que quitter, s'attacher et devenir une seule chair, c'est une union divine. Alors rappelons-nous, notre identité, elle est en Christ. Elle est en Jésus-Christ. C'est le fondement de tout chrétien. Être en Christ signifie suivre ce qu'il dit, avoir les mêmes valeurs que lui. Parce que la parole va même jusqu'à affirmer qu'un chrétien peut dire, selon Galates 2:20, « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc si Jésus dit que le mariage est entre un homme et une femme clairement déterminé au niveau des genres, celui qui est en Christ vivra ce qu'il enseigne. Et nous croyons d'ailleurs que le mariage entre un homme et une femme n'est pas le modèle, mais le reflet d'un modèle qui est la relation entre Christ et l'Église. Okay ? Donc nous croyons que le mariage n'est pas le modèle, mais le reflet d'un modèle qui est la relation entre Christ et l'Église. Éphésiens l'explique bien. Or, comme certains aspects de ce texte amènent des réactions épidermiques, parce qu'ils sont généralement mal compris et trop souvent mal vécus, je ne vais lire que ce qui concerne Jésus dans ce texte, afin qu'on ait déjà le modèle en tête. Et bien entendu, le mariage entre un homme et une femme devrait refléter ce modèle. Donc je vous lis le texte en prenant uniquement les éléments qui concernent Christ et l'Église. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. L'Église se soumet au Christ. Et le Christ a aimé l'Église, se livre lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Christ nourrit l'Église et en prend soin parce que nous sommes membres de son corps. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Donc ça c'est Éphésiens 5, on peut lire les versets 22 à 32. Et là, dans le texte, vous avez aussi ce qui concerne le mariage entre un homme et une femme. La relation de Jésus avec son Église est exclusive et dans des rôles non interchangeables, dans une alliance qui ne se brisera jamais. Et d'ailleurs, c'est notre assurance du salut que cette alliance ne se brisera jamais. Nous croyons aussi que Jésus ne peut pas faire alliance avec ceux qui n'ont pas le même esprit que lui. Pas possible. Et les nombreux, donc là on voit de 1 Corinthiens 10, 20-21, 2 Corinthiens 6, 14 qui en parlent, ou les nombreux textes de l'Ancien Testament sur la séparation totale d'avec l'idolâtrie ou tout ce qui peut nous y faire tomber. Donc si Jésus-Christ ne peut pas faire alliance avec celui qui n'a pas son esprit, celui qui dit être en Christ vivra de même, ou bien Christ n'est pas en lui. Nous croyons enfin, comme le dit Hébreux 13:4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Et là, c'est un texte qui parle clairement aussi de la sexualité. Et là, je vous donne la définition, je ne peux pas le développer ici, on pose des bases simplement, je vous donne la définition de comment doit être vécue la sexualité selon la parole de Dieu. Voici l'élément. La sexualité est uniquement à vivre dans le cadre de l'alliance du mariage entre un homme et une femme, dans la réalité et non la virtualité, dans un amour respectueux, patient et qui se donne sans exiger et de manière réciproque. Bon, c'est un peu comme ces confessions de foi où c'est très très dense, hein, donc je vais vous la redire, mais il me semble que là on a tous les éléments qui nous permettent de saisir ce que Dieu veut et aime dans ce cadre-là. Hein. La sexualité est uniquement à vivre dans le cadre de l'alliance du mariage entre un homme et une femme, dans la réalité et non la virtualité, dans un amour respectueux, patient et qui se donne sans exiger et de manière réciproque. Et en fait, toute sexualité en dehors de ce cadre est une souillure. Ça, c'est Hébreux qui le dit. Hein. Un péché, selon la parole de Dieu, qui appelle cela de l'inconduite, de la luxure, la fornication, l'adultère, la débauche, et j'en passe. En fait, si on commence à réfléchir à ce que Dieu a créé et ce que Dieu nous invite à vivre, on peut voir le mariage comme un cocon tout doux dans lequel on est bien, où il fait bon, on se trouve en sécurité. Ou une autre image, ça pourrait être comme une arche qui abrite la vie alors que la tempête fait rage et que les eaux recouvrent la surface de la terre. Imaginez un mari et une épouse qui s'aiment tendrement. Le mari prend ses responsabilités, il pourvoit aux besoins de la famille, la protège, l'aime de manière à se donner et manifeste de la tendresse envers son épouse. L'épouse prend ses responsabilités, elle, on pourrait dire, elle donne l'âme de la maison, prend soin de ses enfants qu'elle influence selon Dieu pour toute leur vie, prend des initiatives et vit la mission que Dieu lui confie aux côtés de son mari. Ils ont une relation unique, exclusive, se donnant l'un à l'autre avec respect et s'encourageant dans les projets de l'un et l'autre. Ils se soutiennent et veulent les deux vivre pour le royaume de Dieu, n'ayant qu'un roi, Jésus-Christ. Pas le mari ou l'épouse ou les enfants, Jésus-Christ. Est-ce que ça nous fait un peu rêver, tout cela ? C'est pourtant ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui est aussi le meilleur lieu de développement de chaque enfant, qui est aussi la base d'une société saine. Le Créateur a créé le mariage. Et le mariage final auquel tout croyant, même célibataire, qui est d'ailleurs un être complet en Christ, tout croyant participera à ce mariage en tant qu'épouse. Ce sera les noces de l'agneau lors du retour de Jésus-Christ. Alors en conclusion, en Christ notre Créateur, nous nous rendons compte que la création, en fait, nous parle du merveilleux évangile. J'aimerais vous faire les liens pour que vous puissiez comprendre. La création originale et parfaite sans mort, il n'y avait pas de mort, eh bien ce sera comme lorsque l'évangile sera pleinement manifesté et que nous vivrons dans la nouvelle création. Comme Adam est historique, Jésus l'est aussi. Il est venu prendre le juste jugement de Dieu qui pesait sur nous à un moment précis de l'histoire, il y a maintenant à peu près 2000 ans, où il a dit « Tout est accompli ». Il a payé. Donc venez à lui. Il peut réellement nous délivrer de nos péchés. Ce n'est pas une hypothèse. Troisièmement, le modèle du mariage institué par le Créateur est un reflet de Christ et l'Église. Jésus-Christ est venu donner sa vie pour sauver l'Église, c'est une réalité. Et cela nous pousse à venir à Christ lorsque nous avons péché, pour être délivrés de tout péché. Nous allons auprès de celui qui seul peut nous donner une identité complète et équilibrée et paisible. Auprès de celui qui seul peut nous purifier et nous faire vivre une sexualité épanouie et pure. Nous nous repentons de nos égarements que nous délaissons et nous nous réjouissons que Jésus notre Créateur est aussi Jésus notre Sauveur et notre Seigneur souverain. Nous avons tout pleinement en lui. Il dit « Et cela s'accomplit ». Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit « Ça s'accomplit. » En Jean 6, 37, il dit « Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Tout ce qu'il dit s'accomplit. Notre identité est en Christ, le Créateur. Ce qu'il dit s'accomplit. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, dans un monde troublé, nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs pour saisir ta parole. Ou peut-être, dit différemment, être saisi par ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être des personnes qui nous plaçons au-dessus de ta parole pour dire ce qu'elle dit. Nous voulons des personnes soumises à ta parole. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de l'être, même si cela ne plaît pas à notre société. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner le même amour que Christ avait lorsqu'il était sur cette terre, envers tous. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner, de nous réjouir du plan, de la vision du monde extraordinaire que tu as pour nous. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous fidèles. Nous avons besoin de toi. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été arrogants avec ta vision du monde. Mais non, Seigneur, nous n'avons pas besoin de l'être. C'est ta vision. Et nous voulons la faire nôtre, non pas parce que nous l'avons trouvée, mais parce que nous te faisons confiance. Donne-nous de le faire humblement et fermement. Heureux de savoir que Christ est notre Créateur et que c'est lui qui nous forme, qui nous donne un nouvel être en lui pour l'éternité. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.